Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous. Voici Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Bernard Stora. Bernard Stora, bonjour et merci d'être devant notre micro aujourd'hui parce que on parle rarement cinéma dans l'émission Wagon Livre. Or là, avec vous, ça va être l'occasion. Alors, Bernard Stora, vous êtes écrivain, cinéaste. Vous avez aussi beaucoup composé pour la télévision, mais à votre actif, des longs-métrages comme Un dérangement considérable, Villa Caprice. Quelques titres de films pour la télévision, pour rafraîchir la mémoire de nos auditrices et auditeurs.
Oh, eh bien, je pense que peut-être vos auditeurs auront la gentillesse de se souvenir d'un film qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Suzy Berton, qui était un film avec Lynn Renault et André Dussolier, qui était un face-à-face qui a beaucoup plu. C'était environ dans les années 2000. Et puis j'ai fait aussi un film très, très important pour moi qui s'appelait Le Grand Charles, qui était sur le général de Gaulle. Voilà, général de Gaulle, qui était interprété par Bernard Farcy. Et c'était la première fois à cette époque qu'on osait représenter le général de Gaulle. Depuis, il y a eu plusieurs films avec la représentation de ce personnage avec différents comédiens.
En 2023, vous avez fait paraître un premier roman, Le Bada, aux éditions De Noël, et vous revenez sur le devant de la scène éditoriale, toujours chez De Noël, avec Dans le cercle rouge, le tournage du film de Jean-Pierre Melville, Au jour le jour. Bernard Stora, vous avez conservé l'intégralité de ce que l'on appelle pour un film les feuilles de service du film Le cercle rouge, dont le tournage débute très précisément le 13 janvier 1970. Vous êtes alors un jeune homme de 27 ans, vous êtes premier assistant réalisateur aux côtés de Jean-Pierre Melville, qui est un personnage haut en couleur, on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez conservé presque toutes ces feuilles de service, il y a juste une journée manquante. Est-ce qu'on peut rapidement expliquer ce qu'est une feuille de service?
Alors une feuille de service, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays du monde quand on fait un film. Le soir, on distribue à l'équipe un petit document, il fait un recto verso ou trois pages dans lequel on donne le programme du lendemain. C'est-à-dire qu'on dit les numéros des séquences qu'on va tourner le lendemain, les décors, où ça se passe, quel est l'itinéraire, l'heure de convocation de l'équipe, des comédiens et un rappel des quelques accessoires les plus importants. Voilà, c'est un petit document qui sert de feuille de route à l'équipe. Pardon. Et donc, à cette époque, c'était un document qui était tapé à la machine et renéotypé, comme on disait alors. Et maintenant, évidemment, c'est envoyé par SMS ou par mail, mais c'est exactement le même principe.
Alors, un petit rappel sur votre parcours. Vous êtes né à Marseille, vous avez grandi à Marseille. Vous avez débuté sur les plateaux à l'âge de 21 ans. Donc vous êtes un méridional, un vrai méridional.
Je suis un méridional, absolument. J'ai passé une enfance à Marseille et je reviens volontiers dans cette ville à laquelle je suis attaché. Mais je suis venu à Paris à 17 ans pour préparer l'école de cinéma qui s'appelait l'IDEC et qui a été prolongée maintenant par une école prestigieuse qui s'appelle la FEMIS.
Alors vous avez fait votre service militaire à l'établissement cinématographique des armées. On vous avait dit, c'est une bonne planque, tu vas pouvoir y dormir tranquille, mais finalement, vous avez réalisé des prises de vue et vous avez techniquement appris beaucoup de choses.
Oui, bien sûr, parce que vous savez, c'était très, 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 quel que soit le sujet, c'était formidable de pouvoir tourner des films qui étaient des films d'instruction, en fait. dès que je sortais, comme on dit, on se faisait la main. Et j'ai fait effectivement un certain nombre de films et très content de le faire dans cet établissement où se retrouvaient généralement des sursitaires qui avaient une certaine expérience du cinéma.
Alors, après le service militaire, vous avez exercé plusieurs petits boulots, vous avez été assistant, régisseur et... Vous avez participé au tournage d'un certain nombre de films comme Le Tatoué, Staircase, Le Clan des Siciliens, La Dame dans l'Auto en 1969. 69, c'est l'année où vous allez être engagé par Jean-Pierre Melville. Et d'ailleurs, quand vous êtes très hésitant pour l'approcher, on n'aborde pas comme ça Jean-Pierre Melville. Et lui vous dit, mais enfin monsieur, on ne devient pas comme ça l'assistant de Jean-Pierre Melville.
Oui, Jean-Pierre Melville avait une réputation, et il avait d'abord une réputation de cinéaste. Et moi et les gens de ma génération avions beaucoup d'admiration pour ce grand cinéaste et pour ses films comme Bob le Flambeur, j'essaie de ne pas me tromper dans la chronologie. Pour donner le titre des films qui étaient faits à cette époque.
69 donc, hein.
Voilà, 69. Donc il avait déjà fait Le Deuxième Souffle, il avait fait Léon Morin Prêtre, il avait fait Le Samouraï. Donc c'était des films très importants et qui nous impressionnaient beaucoup. Alors être demandé par Jean-Pierre Melville, c'était à la fois un honneur, c'était important en termes de carrière parce que ça représentait un très grand metteur en scène avec lequel on me demandait de collaborer, mais c'est aussi très intimidant parce qu'il avait la réputation d'être un homme très difficile. On disait qu'il était compliqué de ne pas se fâcher avec Jean-Pierre Melville et voilà, donc il arrivait précédé d'une réputation un peu terrible. Et donc, en effet, la première fois où je l'ai rencontré, il m'a accueilli de cette façon un peu glaçante. On ne devient pas comme ça l'assistant de Jean-Pierre Melville.
Bon, je rappelle, à cette époque, vous avez 27 ans. Lui, on a 53. Il a donc un passé absolument quand même déjà formidable et prestigieux. Mais oui. C'est un homme aussi qui a construit une légende. Il suffit de voir sa photo sur la couverture de votre livre, dont je rappelle le titre, hein, Dans le cercle rouge, le tournage du film de Jean-Pierre Melville au jour le jour. Costume impeccable, mocassin formidablement ciré, et puis surtout le Stetson et les Ray-Ban à verre fumé.
Voilà. Il s'était composé, il a travaillé, je pense, dès le début de sa carrière, à se construire une légende. Et aussi à composer une silhouette inoubliable. Alors effectivement, il y avait ce chapeau, c'est quand même assez rare en France de se balader avec un chapeau de cow-boy. C'est assez rare aussi de se balader le jour comme la nuit avec des Ray-Ban à verre fumé, donc on ne voyait pas son regard. Et puis il avait des costumes, il était très très élégant, très bien habillé, mais il portait toujours le même costume. Et ça veut dire que quand on allait chez lui, dans son placard, il y avait 5 costumes exactement les mêmes, 5 paires de chaussures les mêmes, plusieurs Stetson. C'était un uniforme, somme toute. Donc, c'était vraiment un homme déguisé et un homme qui tenait à ce qu'on se souvienne de lui parce qu'il ne ressemblait à personne. Il était extravagant.
Ce qui est aussi drôle, c'est que vous l'avez vu en pyjama, parce que au moment du tournage du Cercle Rouge, certains soirs, vous alliez chez lui, lui allait se changer dans la salle de bain, il revenait en pyjama, se mettait au lit, et vous étiez assis à ses côtés au bord du lit. C'est formidable pour travailler.
Oui, mais déjà pendant la préparation, c'était un homme qui vivait la nuit, et il passait une grande partie de sa journée couché. Donc, quand pendant la préparation, je devais aller le voir dans son fief, son domaine de la rue Génère, dans le 13e arrondissement, où il avait non seulement ses studios, mais ses salles de montage, sa salle de projection et son propre appartement familial. Il était en général au lit, en pyjama, environné de journaux qu'il découpait parce qu'il adorait les faits divers. Donc c'était une curieuse façon, en effet, d'être tout à coup dans son intimité pour un homme qui, par ailleurs, était extrêmement pudique et comme je vous l'ai dit, quand même un tout petit peu réfrigérant.
Mais vous le dites, mégalomanie assumée et puis orgueil incommensurable.
Oui. Oui, oui.
On vous sent nuancé quand même. Vous avez, le texte que vous avez écrit, c'est aussi un portrait de Melville que vous faites et d'autres personnes, les acteurs et des membres de la régie technique de ce film à qui vous rendez hommage. Parce que les conditions de travail étaient rudes, l'ambiance pas folichonne, Melville imprévisible parfois. Mais on sent que vous l'admirez et puis on a l'impression aussi qu'il vous a beaucoup vampirisé.
Oui, c'est-à-dire le
il fallait être tout le temps disponible, quoi. Un peu autoritaire, Monsieur Stora, parce qu'il ne vous appelle jamais Bernard. Monsieur Stora, je vous attends.
Alors, c'était soit Monsieur Stora, soit mon coco. Mon coco était une expression favorite. Il appelait souvent ses collaborateurs mon coco quand il était de bonne humeur. Voilà. Et de toute façon, il vous voyait et il avait toujours ce Monsieur Stora. Voilà. Je l'ai jamais entendu m'appeler Bernard, sauf tout à la fin, lorsque nous nous sommes retrouvés plusieurs années plus tard et où là, il a dit ah Bernard. Et donc j'étais très surpris et très très content de ce moment où quelque part il y avait un petit peu d'humanité dans son comportement.
Bernard Stora, est-ce que vous vous êtes censuré dans certains aspects de ce livre ? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient paraître comme défavorables à Jean-Pierre Melville que vous avez tus dans ce texte ?
Non, pas du tout. Écoutez, voilà, je m'étais fixé quelques règles, c'est-à-dire d'abord de ne dire que des choses, ce sont des souvenirs très anciens, ça date de 55 ans, donc il fallait que je me souvienne des choses, et heureusement j'avais quelques souvenirs qui étaient très très vifs, mais aussi ces feuilles de service dont nous avons parlé tout à l'heure m'ont permis à reconstituer la chronologie du tournage, et peut-être l'originalité de ce livre qui fait que le livre est bien accueilli et intéresse les lecteurs, c'est que les échos sont bons, si vous voulez, c'est que il montre aux gens qui n'ont pas l'habitude du cinéma, qui ne savent pas très bien comment se tourne un film, qu'est-ce que c'est que cette discipline qui fait qu'on tourne généralement les scènes dans le désordre parce qu'on les regroupe pour des raisons pratiques. Et donc là, les gens peuvent avoir une idée de ce qui a été tourné, dans quel ordre ça a été tourné, à quel moment et ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour réussir ces scènes qui plaisent tellement et qui font que ce film reste tant d'années après un film référence.
Au point même que parfois il est à l'agrégation de lettres dans.
Mais oui, vous rendez compte
dans l'épreuve de lecture d'images.
Oui, dans les années 2010-2011, je crois, il a été au programme d'un concours important et il a donné lieu évidemment à des gloses, des analyses critiques extrêmement complexes. Bon, moi, mon livre est beaucoup plus pratique et s'attache à rendre le quotidien du livre. Alors, pour répondre à votre question, non, je n'ai rien dissimulé de mon rapport ambigu avec Jean-Pierre Melville. C'est un rapport qui était par certains côtés un rapport intime et filial, par d'autres côtés un rapport dans lequel j'étais soumis quand même à rude épreuve. Vous voyez, il fallait jour après jour supporter un homme qui pouvait piquer des colères, être extrêmement injuste, parfois cruel avec l'équipe. Donc c'était toujours un équilibre très difficile à réussir entre être solidaire de l'équipe et en même temps être l'assistant de Jean-Pierre Melville et ne pas se fâcher avec lui.
Vous racontez aussi les rapports extrêmement tendus avec Charles-Henri Montel, qui est un des meilleurs cadreurs, ça pour une histoire de pont qui apparaît. Enfin, on en reparlera peut-être parce qu'on peut évoquer
bien sûr,
énormément
bien sûr,
de souvenirs.
Bien sûr.
En tout cas, je vous cite, travailler avec Melville avait été à la fois une chance inouïe et une rude expérience. Je rappelle donc que le tournage du film commence le mardi 13 janvier 1970, comme disent les Suisses, durera 66 jours, dont 42 jours de tournage en studio. Cher Bernard Stora, si vous le voulez bien, on marque un premier intermède musical. Je rappelle juste avant le titre de votre ouvrage sorti cet automne aux éditions de Noël, dans le Cercle Rouge, le tournage du film de Jean-Pierre Melville, Au jour le jour. On revient juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Je me demande si demain tu m'écouteras encore. Je redeviendrai une inconnue. Si je partirai comme je suis venue, si fort, si vite, je cogite. Je pose des questions à des questions. Je me demande si on m'aime pour les bonnes raisons. Je dérive. On me propose de chanter cette chanson. Je sais pas, j'hésite. Je pense à tout. La nuit, ça me fait tourner la tête. Mélatonine, mon ami. Et la maman qui s'inquiète. Je dors plus la nuit. Ça me fait tourner la tête. Mélatonine, mon ami. Et la maman qui s'inquiète. Je me demande, est-ce que j'ai mérité ce qui m'arrive? J'ai pas bu une goutte, je me sens ivre. Mais l'instant d'après, je me sens vivre. Vivre, c'est trop là. Et ça. À tout ça, je me dis oh là, où ça ira. Je pense à tout ça qui m'aime pour deux, qui se tatouent au cœur sur le bras. Je dors plus la nuit, ça me fait tourner.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous avez manqué le début de cette émission, nous sommes aujourd'hui avec l'écrivain et cinéaste Bernard Stora à l'occasion de la parution aux éditions de Noël d'un ouvrage intitulé « Dans le cercle rouge ». Le tournage du film de Jean-Pierre Melville, Au jour le jour, c'est la genèse d'un chef-d'œuvre grâce notamment à vos souvenirs, aux témoignages, aux portraits de toute l'équipe technique et cinéma qui participe au tournage de ce film, donc le Cercle Rouge, durant 66 jours en 1970, reproduction de photos et de en facsimilé de ces fameuses et précieuses feuilles de service que vous possédez. Alors, une distribution prestigieuse sur un film, un polar, hein, il faut le dire. Aucun rôle féminin important.
Non, pas de rôle féminin.
Pas de rôle féminin.
Pas de rôle féminin, c'est un film extrêmement viriliste, on dirait aujourd'hui. Voilà.
Alors
c'est une affaire d'homme.
André Bourvil, Yves Montand, Alain Delon et Gian Maria Volonté. C'est une coproduction franco-italienne, il faut donc quelques acteurs italiens.
Voilà, c'était très courant à l'époque. Beaucoup de films étaient français produits avec l'Italie et de films italiens produits avec la France. Donc à chaque fois, il y avait un échange et par exemple des acteurs français comme Jean-Louis Trintignant ou Delon lui-même d'ailleurs ont tourné en Italie et nous avons souvent accueilli des acteurs et des actrices italiennes.
Alors Jean-Pierre Melville ne voulait pas d'acteurs italiens, il faut dire que Gian Maria Volonté n'est pas tellement connu. Alors Volonté, lui, il incarne Vogel, c'est-à-dire celui qui échappe des menottes du commissaire Mattei, interprété par Bourvil. Alors, c'est un acteur qui est prometteur, ce que Melville peut-être ne pressent pas.
C'était un acteur très très célèbre en Italie et qui n'était pas encore connu, pas tellement connu en France, parce que ses principaux films, Enquête sur un citoyen de tout soupçon par exemple, n'étaient pas encore sortis. Voilà, donc sa célébrité en France est venue après le tournage du Cercle.
Alors en 71, Gian Maria Volonté devient connu dans Sacco e Vanzetti, La classe ouvrière va au paradis, et puis l'affaire Mattei.
Absolument.
En 72. Là, on est en 70. Le tournage commence en plus en plein hiver, hein, au mois de janvier. Même si finalement, l'équipe, dans les tournages extérieurs, vous dites qu'il y a une chance avec la météorologie.
Il y a une chance du point de vue du scénario. Il n'y a pas une chance du point de vue de la résistance au froid et à la pluie, à la neige. Il faisait extrêmement froid, vraiment, pendant toute cette période. Mais c'est vrai que par rapport au scénario, c'est comme si Melville avait eu un contrat avec le ciel il y avait du beau temps quand il fallait du beau temps, il y avait de la neige quand il fallait de la neige, ou du temps brumeux. Et je crois que le film, de ce point de vue, très impressionnant. Et souvent, on pense que ce sont des effets spéciaux, mais non, les effets spéciaux à l'époque étaient beaucoup moins développés que maintenant. Et le temps est celui que le bon Dieu nous donnait ce jour-là.
Alors, il y a 2 jours de tournage à Marseille. Alors, vous dites d'ailleurs que ces 2 jours de tournage furent un cauchemar.
Un cauchemar, un enfer.
Et puis, il y a quelques scènes tournées en Côte d'Or. Je pense au relais.
Oui, tout à fait.
Le Bel Air, à la Roche-Pau.
Voilà, le Bel Air. Tout le monde connaissait le Bel Air à l'époque, parce que quand on allait de Paris à la Côte d'Azur, c'était une étape assez courante, ce relais Bel Air, qui est d'ailleurs, je crois qu'il a été restauré maintenant et qu'on l'a remis dans l'état dans lequel il était à l'époque.
Alors, parlons.
C'est une station-service, c'est un restaurant
de
routier.
Sur l'autoroute.
Voilà, sur l'autoroute.
Parlons de Bourvil.
Non, pas sur l'autoroute, sur la nationale 6.
Bourvil est recruté étonnamment dans le rôle du commissaire Mattei. Il faut reconnaître que Jean-Pierre Melville s'est fâché avec Lino Ventura. C'était Lino Ventura qui était prévu dans le rôle du commissaire.
Tout à fait.
Et alors, j'aimerais, Bernard Storac, vous expliquiez ce verbe que vous utilisez. Vous dites Jean-Pierre Melville s'est approprié Bourvil.
Mais oui, parce que si vous voulez, pour lui, moi je me souviens très bien quand j'ai commencé la préparation de ce film, c'est-à-dire au mois de début décembre 69, la décision n'était pas prise d'engager. Jean-Pierre Melville et le producteur Robert Dorfman ne savaient pas qui allait remplacer Lino Ventura. Et Lino Ventura était fâché, vraiment, vraiment fâché avec Melville à la suite du tournage de ce film extraordinaire qui est L'Armée des Ombres, dans lequel, voyez, c'est ça qui est paradoxal. Ils se sont fâchés après avoir fait un film sublime et après que Lino Ventura ait interprété d'une façon extraordinaire ce rôle. Bon, donc il fallait le remplacer. Je pense que Melville, jusqu'au bout, a eu l'espoir que les choses s'arrangeraient avec Lino Ventura. Ça n'a pas été le cas et Lino avait une tête dure. Il n'était pas réputé pour transiger et donc il a campé sur ses positions. Et alors c'est Robert Hoffman qui avait beaucoup travaillé pour différents films, surtout des comédies, mais pas seulement, avec Bourvil, qui a eu cette idée, qui a dit « mais pourquoi vous ne prenez pas Bourvil ?» Et Melville, au départ, était extrêmement opposé à cette idée. Il disait « mais c'est invraisemblable, qui va croire que Bourvil est un commissaire de police ? C'est pas possible. » Et il me disait « Monsieur Stora, lorsque Bourvil ouvrira la bouche, les spectateurs vont avoir l'impression qu'il va leur chanter la tacatacatique du gendarme. » Bon, alors, et il riait beaucoup, ça le faisait rire. Bon, et puis finalement, peu à peu, il s'est rendu compte qu'il fallait le tournage approcher, il fallait bien un acteur. Et il a commencé.
D'autres acteurs avaient été envisagés ?
Non. Vraiment, il était dans une impasse. Et je pense que dans sa tête, il s'est peu à peu approprié cette idée de Melville, et il a simplement cherché comment il pourrait faire rentrer ce personnage qui était bonasse, qui était le public aimé, parce que il avait ce côté paysan, normand, il riait, il était très sympathique. Moi, j'avais travaillé sur un film où il était un film qui était une comédie qui s'appelait Les Cracks, dans lequel il jouait 2 ans avant. Et à cette époque-là, il était plein de santé. Et c'était un personnage charmant, drôle, qui plaisantait tout le temps. Voilà. Et 2 ans plus tard, c'est un homme qui était très amoindri par la maladie, qui devait finalement l'emporter. Quelques mois après le tournage du Cercle Rouge. Et déjà, on peut dire que Le côté fragile de cet homme, Melville s'est dit, c'est intéressant parce que il n'est pas un commissaire de police attendu. Évidemment, entre Lino Ventura et Bourvil, vous imaginez bien qu'il y a un fossé. Ce sont deux personnages totalement la force de la nature, le personnage relativement brutal qu'incarnait Lino Ventura si bien, et cet homme gentil, bon et doux et rigolard qui était Bourvil, ça n'était pas tout à fait la même chose.
Il a fallu opérer quelques petites transformations, notamment physiques.
Mais oui, alors physique, déjà, c'était par exemple lui mettre ce qu'on appelle un toupet, c'est-à-dire des mèches de cheveux qui dissimulent la calvitie qui était déjà relativement prononcée. Et vous savez, quand on opère ce genre de petits ajouts physiques, on déguise. Finalement, un homme déguisé n'a pas le même comportement qu'un homme au naturel. Et donc déjà, c'était un aspect du déguisement de Bourvil qui le changeait. Parce que quand il se voyait dans la glace, il ne se reconnaissait plus avec ce toupet. Mais il s'est reconnu encore moins quand Melville lui a composé une garde-robe d'une extrême élégance avec des costumes coupés sur mesure chez son propre tailleur, le propre tailleur de Melville qui était très coquet et qui aimait être bien habillé. Et je me souviendrai toujours de Bourvil essayant ses costumes, se regardant dans la glace et disant « je suis beau ». Voilà, je suis beau, il disait. Et alors, c'était un homme à femme, hein, c'était un coquin, Bourvil. Il avait des conquêtes, mais je pense qu'il devait trouver que c'était pas spécialement sa beauté physique qui séduisait ses différentes compagnes.
Et sur le tournage du Cercle Rouge, Jean-Pierre Melville explique à Bourvil qu'il doit totalement changer sa diction.
Alors ça, c'était vraiment malin. Oui, parce que Bourvil, comme tout le monde le sait, dans ses films, avait gardé son accent normand, c'est-à-dire il prononçait toutes les syllabes, il avait un accent un petit peu traînant, et Bourvil lui a imposé de pratiquer ce qu'on appelle l'élision, c'est-à-dire de ne pas prononcer les voyelles. Vous voyez, et au lieu de dire, pour rester simple et que tout le monde comprenne, par exemple, au lieu de dire « je veux », il lui demandait de dire « je veux ». Alors, ça n'a l'air de rien, mais sur tout un dialogue qui était respecté à la lettre, c'est un exercice mental qui fait que le jeu de Bourvil lui-même était modifié par cette tension qu'il avait à respecter les consignes de Melville dans ce domaine. Et d'une certaine façon, pendant qu'il réfléchissait au fait qu'il fallait qu'il avale les voyelles, il ne pensait pas à jouer. Donc il y avait ce jeu un petit peu distancié, un petit peu neutre, qu'appréciait beaucoup Melville.
Je rappelle que nous parlons de la genèse d'un chef-d'œuvre du cinéma français, hein, Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, avec Bernard Stora, qui signe aux éditions de Noël dans Le Cercle Rouge. L'histoire pleine d'anecdotes autour de ce film. On va marquer un nouvel intermède musical et puis ensuite on va passer en revue les autres acteurs qui donnent tout leur talent et toutes leurs compétences à ce film qui finalement dans les 4,5 millions d'entrées à l'époque.
Oui, c'était très important. Très, très, très gros succès.
Alors, je ne sais pas,
mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que le film passe et repasse. Et je viens de voir qu'il est maintenant sur la plateforme Netflix depuis quelques jours. Et donc, c'est une postérité que personne n'aurait pu imaginer à l'époque. Voilà.
Alors, on revient sur ces 66 jours de tournage avec Bernard Stora, juste après un nouvel intermède musical.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
En cette fin de matinée sur Radio, nous sommes dans le Cercle Rouge avec notre invité Bernard Stora, qui signe donc ce livre aux éditions de Noël. C'est l'histoire des 66 jours de tournage du film de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, avec Bourvil, Gian Maria Volonté, Alain Delon, Yves Montand, mais il y a aussi François Perrier, et puis il y a des des comédiens alors très âgés qui sont d'une ancienne génération. Alors il y a des figurants et puis il y a un petit gars de 25 ans dans le rôle de chasseur de groom de la boîte Santi, c'est Jean-Pierre Castaldi.
Oui, Jean-Pierre Castaldi qui était le gendre d'Yves Montand. Il était le mari de le jeune époux de Catherine Allégret. Et en effet, c'était pas facile de commencer dans ce métier de comédien. Et pour mettre un peu de beurre dans les épinards, Yves Montand avait souhaité qu'il tienne ce tout petit rôle.
Alors Bernard Stora, parlons d'Yves Montand qui interprète le rôle. Alors on dit Janssen ou Janssen?
Janssen,
qui est un ancien policier alcoolique qui va être recruté, c'est un tireur d'élite, pour faire le fameux casse de la bijouterie Mauboussin, place Vendôme à Paris. Alors, il y a une vraie sympathie entre vous et Yves Montand, il y a aussi une complicité politique, idéologique, parce que vous ne cachez pas qu'à cette époque, vous étiez très proche du Parti communiste et Montand et sa femme, Simone Signoret, qui habite place Dauphine à Paris, sont aussi classés à gauche, alors que Melville et Delon sont classés quand même plutôt à droite.
Voilà, c'était ça.
Mais tout se passe bien quand même.
Ben c'est une époque où on pouvait ne pas être de la même opinion politique et ne pas se haïr. Vous voyez, ça a beaucoup changé. Maintenant, il faut être dans des camps adverses et qui s'agressent. À cette époque, tout le monde n'était pas du même avis. Et essayer de se supporter. De toute façon, sur un plateau de cinéma, et c'est ce qui en fait l'intérêt d'ailleurs, la vie sur un plateau, c'est que c'est une équipe et que il faut s'entendre, il faut trouver un moyen de s'entendre.
L'ambiance n'est pas formidable.
Ah non, l'ambiance est très mauvaise. Mais ça, c'est encore une autre question. Alors, en ce qui concerne mon temps, c'est vrai, moi j'étais, je ne le cache pas, communiste à l'époque et inscrit au Parti communiste Yves et Simone Signoret étaient des défroqués d'une certaine façon. Ils n'avaient jamais appartenu au Parti communiste, mais ils en avaient été très très proches. Et ils avaient totalement changé d'opinion, ils avaient ouvert les yeux, comme ils disaient, sur la situation, et ils avaient raison de ce point de vue, sur la situation en Union soviétique, mais avec Montand, nous gardions quand même une sorte de proximité. Il y avait le défroqué qui gardait une certaine tendresse pour ceux qui avaient été pendant si longtemps ses opinions. Voilà. Donc ça, c'était un aspect des choses. Mais Montand était quelqu'un que j'admirais énormément, vraiment énormément. Et en plus, dans ma famille, mes parents avaient plein de disques d'Yves Montand. Toute ma jeunesse,
j'étais... Mais c'est aussi un grand chanteur.
C'est un magnifique chanteur. Toute ma jeunesse, j'avais été bercé par les chansons d'Yves Montand. Et puis, j'avais vu ses récitals à l'Olympia, etc. Et donc, j'avais énormément d'admiration pour le chanteur et l'homme de music hall. Mais l'acteur était, dans sa fonction de jouer la comédie, avait gardé ses habitudes du music hall, c'est-à-dire qu'il travaillait énormément son rôle, ses attitudes, ses gestes, tout ça était cadré au millimètre.
Et on a l'impression parfois qu'il manque un peu de confiance en lui.
Il peut manquer de confiance en lui avant et s'interroger beaucoup. Mais justement, ce que j'essaie de raconter, c'est comment quand il arrive pour tourner, quand il est, vous voyez, il y a quelque chose qui se produit. Au music hall, les hésitations, elles sont avant. Le trac peut être horrible. Mais quand on est sur scène, tout à coup, tout change. Eh bien, en ce qui concerne Montand, quand il se retrouvait devant la caméra, tout à coup, il avait une assurance et une certitude dans son jeu qui était vraiment très impressionnante.
Alors là où il est excellent, c'est dans la scène de Delirium Tremens, puisque il joue le rôle d'un ancien policier alcoolique. Et il y a effectivement cette scène où il est en plein délire éthylique où il voit des animaux. Alors, on a des geckos, des caméléons, des lézards ocellés, des varans, un uromastique, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble.
C'est très moche.
Il y a un boa aussi.
Oui, il y a un boa. Il y a
alors,
un boa.
C'est des animaux qui sont achetés chez Villemorin, quai de la Mégisserie à Paris.
Voilà.
Et alors, il y a des marionnettes aussi. C'est extraordinaire tout ce qu'on apprend sur cette scène de Delirium Tremens.
Ce sont des souvenirs tout à fait étonnants parce que ça a été une journée extraordinairement compliquée et tendue, comme toutes les journées, mais encore un peu plus que les autres journées. Et en même temps, il y avait des moments d'une extrême drôlerie, parce qu'effectivement, tous ces animaux qui étaient réunis, qui étaient tous plus terrifiants les uns que les autres, même si certains étaient terrifiants par leur apparence, mais étaient totalement inoffensifs. Et il y avait en plus ces marionnettistes qui étaient sur un échafaudage au-dessus du plateau, et c'était des marionnettes à fil pour les araignées, vous voyez.
Les tarentules, donc,
voilà,
voient monter sur lui alors qu'il est en plein délire alcoolique.
C'est exactement ça. Alors, il y avait des moments où on se demandait comment on allait se sortir de cette situation, parce qu'évidemment, ces animaux n'étaient pas des animaux dressés, et d'ailleurs pas des animaux dressables. Donc, pour obtenir à peu près ce qui était nécessaire, c'était quand même des trésors de patience. D'autant que Melville, qui adorait les animaux, qui était souvent très dur avec les êtres humains, mais qui avait toute la patience du monde pour les animaux, ne voulait surtout pas qu'on leur fasse du mal, de quelque façon que ce soit. Et notre intention n'était pas de leur faire du mal, mais de quelquefois les tirer par la patte pour les mettre à l'endroit où on pourrait les filer. Et Melville s'exclamait, vous allez leur faire mal à leurs petites pattes. Alors bon, donc on était vraiment pris entre deux feux.
Alors il y a cette scène donc très importante et marquante dans le film. Bon, d'autres animaux, c'est les trois chats de Melville. C'est dans l'appartement du commissaire Mattei, interprété par André Bourvil, où Bourvil doit donner de la pâtée aux chats. Alors là aussi, les chats sont terrorisés. C'est Melville, il veut qu'on utilise.
Vous savez que Melville avait cette phrase qui est quand même formidable. Je suis un solitaire à cinq. Moi, ma femme et mes trois chats.
Ouais. Alors les trois chats de Melville s'appelaient Fiorello, Grifolet et Offrène. Alors, autre scène avec Yves Montand, bien sûr, c'est la scène du casse de la bijouterie Maubousin à Paris. 25 minutes sans parole.
Oui, c'est ça. C'est un tour de force. Et c'est très impressionnant. Ça suppose... C'était compliqué à tourner, vous savez, parce que c'était vraiment un travail de patience. Parce que chaque geste, si vous regardez le film attentivement, chaque geste est détaillé, est filmé en gros plan. Donc, tout est très long, très minutieux et je dois dire assez ennuyeux à tourner parce qu'il n'y a pas énormément d'action. Tout tient, tout le suspense tient à cette mise en scène très détaillée, très précis, ses plans extrêmement soignés, extrêmement cadrés. Melville était un artiste de ce point de vue. Il savait faire monter progressivement la tension.
Alors là, c'est tourné en studio et non pas dans les vrais locaux de Maubousin. De toute façon, il était hors de question de faire quelques photos ou
Hors de question.
Alors pareil, les autorisations de tournage, très important. On ne peut pas planter sa caméra n'importe où. Il faut les autorisations. Sauf, on contourne un petit peu les autorisations. Il y a cet épisode très amusant où en équipe réduite, vous allez devant le lycée Henri IV et Melville est reconnu par des écoliers. Et alors Bourvil se met à signer des autographes. Bref, il faut arrêter la séance.
Voilà, voilà, voilà. Melville voulait tourner, comme on dit, en caméra cachée. Donc en dissimulant la caméra et en mettant les jeunes comédiens pour cette scène au milieu de la vraie circulation. Mais à un moment donné, irrité parce que ça n'allait pas assez vite, il est sorti de la voiture dans laquelle il s'était caché. Et évidemment, voir cet homme dans ce déguisement qu'il avait rendu célèbre. Les jeunes connaissaient la silhouette.
Stetson et Reban avaient fumé.
Et immédiatement, alors que nous passions complètement inaperçus, ce qui était le but, immédiatement, il y a un jeune qui a dit « Ah, mais c'est Melville !» Alors bon, toute la place du Panthéon, tous les gens qui circulaient sur cette place, évidemment, se sont précipités vers ce tournage et c'était raté.
Alors vous dites Melville, bon, évidemment, c'est pas un homme très facile. Avec l'équipe technique, il n'y a pas de copinage possible.
Non.
Il est quand même très distant avec les mécanos, les techniciens. C'est un gueulard de temps en temps, ça gueule. Mais vous dites que Henri-Georges Clouzot, Claude Autant-Lara et Julien Duvivier étaient aussi des gueulards.
Voilà, moi j'avais commencé avec Henri-Georges Clouzot. Le premier stage que j'ai fait, la première fois où j'ai mis les pieds sur un plateau, pratiquement la première fois,
c'était pour La Vérité, un film.
Non, c'était pas La Vérité.
Ah, c'était pas La Vérité.
C'était pas La Vérité. C'était après. C'est un film qui n'a pas, jamais été terminé, à peine commencé, qui était un très très gros film. Qui devait s'appeler L'Enfer. Voilà. Et finalement, Clouzot a eu une crise cardiaque et le film n'a jamais été vraiment tourné. Et,
quand vous parlez de Clouzot, vous dites qu'il y avait une ambiance hystérique sur les tournages des films de Clouzot.
Oui, Clouzot,
hystérique à ce point.
Clouzot était réputé pour les colères qu'il pouvait piquer et l'injustice dont il pouvait, parfois la violence. Même.
Oui, parce que vous dites qu'à cette époque, finalement, les comportements des réalisateurs, aujourd'hui, leur entraîneraient sans doute des problèmes ou des plaintes pour harcèlement.
Alors, bon, vous savez qu'il y a fort heureusement d'ailleurs une évolution de ce point de vue, d'abord, et du comportement avec les femmes, heureusement, même s'il y a encore beaucoup de progrès à parcourir, à obtenir, mais aussi, bon, on ne traite pas les gens comme on les traitait à l'époque. Donc, beaucoup de réalisateurs, surtout des réalisateurs qui étaient des réalisateurs vedettes. C'était le cas de Clouzot, c'était le cas de Melville, c'était le cas de Julien Duvivier, qui était un metteur en scène très connu, de Claude Autant-Lara. Donc, c'était souvent ces grands metteurs en scène qui étaient presque plus vedettes que les vedettes, vous voyez. Il faisait le succès des films.
Alors parlons d'Alain Delon dans ce film Le Cercle Rouge, dont vous étiez, je rappelle, premier assistant réalisateur aux côtés de Jean-Pierre Melville en 1970. Alain Delon, il me semble être vraiment le bon élève. Il connaît son texte par cœur, il est tout en maîtrise de lui, discret. C'est pas le Alain Delon qu'on nous présente parfois comme étant hautain, il est plutôt agréable, mais très discret.
Voilà, moi je parle d'Alain Delon tel que je l'ai connu. Donc je l'avais déjà côtoyé, disons, sur le plateau du Clan des Siciliens. Et il avait le même comportement, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'atmosphère cool, comme on dit maintenant, du tournage. Il n'avait pas envie de passer sa vie sur le plateau à bavarder. C'était un bon camarade de travail. Mais c'est quelqu'un qui arrivait pour tourner pile à l'heure, qui savait parfaitement son texte, il tournait et puis dès que le plan était tourné, il s'en allait. Il ne séjournait pas sur le plateau et en effet, il ne copinait pas. Voilà. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il a dit, moi, le cinéma existe entre le parté et le coupé. On ne peut pas s'exprimer mieux.
Alors j'aimerais revenir sur certaines anecdotes que vous nous offrez sur Jean-Pierre Melville. Un jour, toute l'équipe est prête, les techniciens, les acteurs sont maquillés, vous êtes sur le plateau et on attend Melville qui est en retard. Quelqu'un enfin appelle Melville. Alors Melville a oublié de se réveiller ou alors il n'a pas entendu le téléphone qui sonnait qui devait le réveiller. Donc il arrive sur le plateau furieux, donc il engueule tout le monde. Donc là, tout le monde comprend que la journée va être épouvantable. Et alors, il vous explique. Melville en veut beaucoup, peut-être au service réception de l'hôtel, de ne l'avoir pas réveillé. Et alors, il a cette anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Il vous dit, Monsieur Stora, vous savez ce que j'ai fait avant de quitter l'hôtel? J'ai pris le beurre du petit déjeuner et je l'ai écrasé sur la moquette avec mes orteils.
Oui, c'était un personnage quand même tout à fait saisissant. En effet, quand nous tournions en studio, la majorité du film, comme vous l'avez rappelé, a été tourné en studio, les horaires étaient un peu plus commodes pour lui. On travaillait de midi à 7h30 du soir. C'était une journée continue et qui commençait à midi. Mais par contre, quand nous tournions en extérieur, c'est-à-dire dehors, pour rester simple, la journée pouvait commencer à 8h du matin. Et ça, c'était insupportable pour lui. C'était insupportable. Comme il ne dormait pas la nuit, évidemment, se lever était très compliqué. Ça veut dire qu'il ne dormait pas pratiquement. Donc, il était dans un état de rage absolument épouvantable et de très, très mauvaise foi. Prêt à expliquer n'importe quoi.
Oui, quand il dit que l'équipe technique du Cercle Rouge n'est pas à la hauteur, que le film aurait dû être tourné en 50 jours et non pas en 66 jours, il est de mauvaise foi.
Il est tout à fait de mauvaise foi, oui. Oui, je peux
Mais
le dire.
C'est un personnage qui nous laisse une impression ambiguë. Moi-même, je l'ai découvert à travers les portraits que vous faites de lui dans différentes situations. Il est surprenant. Ce qui est amusant, c'est, je crois, en 67, donc, il a ses studios donc au 25 bis rue Jenner, dans le 13e arrondissement. Les studios prennent feu et il dit à sa femme Florence, au fait, l'assurance est là, toute gênée. Elle lui dit, je n'ai pas renouvelé les contrats d'assurance. Et là, il a cette réplique admirable, il fait, ah bon ? Ne l'a même pas grondé ou engueulé comme il aurait pu. Bon,
voilà, c'était un homme très paradoxal. En effet, il perdait énormément dans cette affaire. Et d'ailleurs, tous les décors du film avaient brûlé puisqu'il était en train de tourner Le Samouraï. C'était pendant le tournage du Samouraï, tout au début du tournage, assez vite après le début du tournage du Samouraï. Donc, c'était pour lui une véritable catastrophe. Et dans ces circonstances-là, il a eu une attitude très, je ne sais même pas comment la qualifier. Il n'a absolument pas tenu pour coupable sa femme qui quand même avait fait une grosse bêtise en ne renouvelant pas l'assurance.
Alors, le 66e et dernier jour de tournage du Cercle Rouge a lieu le lundi 13 avril 1970. Alors, Melville montait lui-même ses films. Il ne fallait pas toucher à sa pellicule. Et alors, vous avez une petite surprise lorsque vous découvrirez le film et notamment dans, j'allais dire, l'ordre chronologique du générique.
Oui.
Parce que vos deux stagiaires vous précèdent dans le déroulement. Alors, quand même, vous êtes premier assistant
réalisateur. Pour comprendre quelque chose à cette affaire, c'est que, en réalité, j'avais réussi le tour de force de ne pas avoir d'esclandre majeur et de sujet de fâcherie avec Melville jusqu'à la fin du tournage. Et puis, deux ou trois jours après la fin du tournage, il me demandait de passer chaque jour au montage pour parler avec lui, pour qu'il me montre des petits bouts de montage. Pour une affaire totalement dérisoire, nous nous sommes fâchés. Il s'est fâché.
Une affaire de photo, je crois.
Oui, une affaire, écoutez, qu'il est compliqué de raconter ici, tellement elle est... si j'essaie de la raconter, personne n'y comprendra rien. Voilà.
Bon. Mais il est mauvais, Quand il a quelqu'un dans le nez, c'est fini.
Alors, il ne m'avait pas dans le nez, simplement, les occasions de se fâcher sont multiples, vous savez. Donc, moi, j'avais tenu le plateau, tenu mes rapports avec Melville pendant les 4 mois de tournage. Mais là, j'en avais vraiment assez.
Vous êtes un méchant garçon, vous avez.
Oui, voilà. Donc, j'en avais vraiment assez. Puis, je me suis dit, bon, ben, le film est arrivé au bout. S'il a envie de se fâcher, il se fâche. Et comme j'enchaînais tout de suite avec un film intéressant et important, qui était le film de Jean-Paul Rapneau, Les Mariés de l'an 2.
Tourné en Roumanie.
Entièrement tourné en Roumanie. Je me suis dit, bon, ben, s'il a envie d'être fâché, qu'il soit fâché. Alors, j'ai eu, en effet... En rentrant de Roumanie, la surprise allant voir le film et d'ailleurs trouvant le film assez formidable, tout à coup de voir un générique dans lequel j'avais été puni au générique. Donc j'étais relégué au fin fond du générique. Tout le monde s'en fiche, le public s'en fiche et moi maintenant. Voilà.
Et vous étiez quand même le papa de jeunes enfants, et puis votre épouse vous a pas vu beaucoup pendant...
Non. Bon, alors j'étais un peu fâché, et j'étais même tout à fait fâché. Et puis je pense que l'écriture de ce livre d'une certaine façon, m'a permis de mettre les choses à distance et à mettre un point final.
Et réconcilié, peut-être.
Voilà, c'est tout à fait ça. Je me sens réconcilié avec Melville.
En tout cas, Bernard Stora, je rappelle le titre de cet ouvrage, avec reproduction de facsimilés, de feuilles de service,
et des
photographies de tournage.
Pas seulement,
de
scénarios, des extraits de scénarios et ce
qui est intéressant,
des modifications de la main de Melville. Oui,
tout à fait. Dans le Cercle Rouge, le tournage du film de Jean-Pierre Melville, au jour le jour, aux éditions de Noël. Merci, Bernard Stora, parce que vous avez été un acteur de ce film, techniquement parlant et intellectuellement parlant, et de plus, recueillir ces souvenirs. Alors, il y a plaisir à vous lire, mais il y a plaisir aussi à les enregistrer pour l'émission littéraire de Radio. Merci.
Merci de m'avoir donné l'occasion d'exprimer tous ces souvenirs.
Je salue et remercie toutes nos auditrices et auditeurs, et ils retrouvent l'émission en podcast sur yannickpetit.fr. Rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Excellent congé de fin de semaine. Au revoir Bernard Stora et au plaisir.
Au revoir.